Vous allez écouter Les Pieds dans le Parc avec Anne, un reportage à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire du Mont Ventoux.
Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Trinit. Nous sommes dans un très bel atelier, plein de lumière et de symboles. Et nous sommes avec Brigitte Chambon. Brigitte est une enluminéresse. C'est une personne qui reprend les traditions de l'enluminure et sort d'une école puisqu'elle est maintenant maître enluminéresse. Bonjour Brigitte.
Bonjour Anne.
C'est un grand plaisir d'avoir la chance de pouvoir entrer dans ce magnifique petit atelier. L'enluminure, ça fait rêver, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'est l'enluminure? Vous pouvez nous en dire deux mots, Brigitte?
L'enluminure, enluminer les textes. Enluminure, ça vient de enluminare, qui voulait dire mettre en lumière le texte. Dans les premiers livres, puisque l'enluminure, c'est aussi et surtout l'histoire de nos premiers livres. Et en fait, bien l'idée, c'était, puisque les premières choses qu'on a commencé à écrire, où on voulait laisser une trace, en fin de compte, eh bien, ce sont les textes sacrés, c'est-à-dire l'enseignement du Christ, en tout cas dans notre culture. Et donc, mettre en lumière l'enseignement du Christ et la parole sacrée, il y a toute une beauté, toute plein de symboles derrière tout ça. Et donc, c'est un petit peu comme ça que va démarrer l'enluminure, en fait.
C'était une activité des moines en particulier pour ensuite partager donc cette connaissance et ces symboles, cette foi.
Alors dans les premiers siècles, effectivement, puisque ça va concerner le Moyen-Âge, hein, du 5e au 15e siècle, on a 1000 ans d'histoire. Dans les premiers manuscrits, effectivement, ça se passe d'abord dans les monastères. Au départ, eh bien, on va trouver l'Ancien Testament, les évangiles. On va trouver beaucoup aussi, puisqu'au début, ça reste que dans les monastères, donc ça va intéresser que les gens, finalement, du clergé, qui sont liés à la culture, mais vraiment aux enseignements. On va trouver beaucoup de livres aussi sur comment on fait la messe, comment on fait un mariage, comment on fait un baptême, enfin sur des choses assez techniques, en fin de compte.
C'était en fait des sortes de guides.
Voilà, de guides. Mais ça, c'est vraiment le monde de l'Église, en fait.
Et à partir de quand est-ce qu'on commence à sortir justement de ces monastères pour aller rejoindre le peuple?
Eh bien, c'est à partir de l'art roman. À partir du Xe siècle, on a la volonté de montrer au peuple les Bibles. Et donc, on va faire d'ailleurs des Bibles d'apparat. Des grandes Bibles qu'on sort le jour de la messe, qui sont immenses, qui sont très très belles. Et là, eh bien, effectivement, on s'adresse à des gens qui ne savent pas lire à ce moment-là. Donc c'est aussi le moment, dans les manuscrits, où l'image va prendre beaucoup le pas sur le texte. Et c'est l'image, les décors de texte, qui vont montrer ce qu'il y a dans le texte, en fin de compte.
D'accord, donc en fait, c'est un petit peu le début de la bande dessinée qui permet de partager certaines connaissances.
Complètement, complètement. La bande dessinée commence d'ailleurs au Carolingien, hein, donc on est 8e siècle.
Et la bande dessinée commence avec la feuille d'or. C'était quand même un moyen justement d'apporter de la lumière aux manuscrits très tôt en fait. Et vous pouvez nous parler aussi un peu de la technique. Comment est-ce qu'on fait pour commencer une enluminure? J'en vois une là devant le bureau de travail de Brigitte. On est entouré de jolis petits pots qui sont remplis par des pigments. On voit aussi des petites palettes avec des tout petits pinceaux tout fins qui permettent d'appliquer les couleurs de manière aussi très transparente. Et ce papier qui est très particulier parce que ce n'est pas un papier, n'est-ce pas Brigitte?
Ce n'est pas du papier. Ben, au début du Moyen-Âge, on va travailler sur du parchemin, donc la peau d'animaux, très utilisée à cette époque. C'est-à-dire que c'est ce qui va remplacer le papyrus, qui va d'ailleurs se raréfier au début de la période du Moyen-Âge. Et donc, il va falloir trouver un autre support. Donc, on connaît déjà le parchemin dans d'autres contrées. Et donc, il arrive chez nous dans la Gaule profonde, là, de l'époque, entre l'Europe de l'époque, en tout cas. Et donc là, c'est une véritable découverte puisqu'il va y avoir beaucoup d'avantages par rapport au papyrus. Hein. C'est beaucoup plus solide, ça se transporte plus facilement parce que les rouleaux de papyrus, ils faisaient jusqu'à 16 mètres.
Ah d'accord.
Déjà intransportable, ensuite ça se fendillait, ça s'écaillait. Enfin, il fallait être plusieurs pour transporter un énorme rouleau. Donc des fois, s'il fallait lire que ce qu'il y avait au milieu du rouleau, bah, il fallait tout dérouler pour arriver à lire le morceau du milieu selon ce qu'on avait à pratiquer à ce moment-là puisque c'était toujours dans les monastères à ce moment-là. Donc effectivement, on va dire que c'est l'enluminure. À cette époque-là, ça se passe sur le parchemin.
Et le parchemin, donc, en vélin, ça veut dire qu'on continue à faire des rouleaux ou est-ce qu'on passe au format livre?
Justement, on passe au format livre. Ça s'appelle pas un livre à l'époque, ça s'appelle un codex. On va avoir la reliure médiévale qui va avec, et donc tous les outils du moment, tout ce qui permet de faire cette reliure. Donc on a la peau, hein, on a le bois pour les pages de couverture, on a le fil de lin, on a la corde de chanvre, et puis le parchemin pour faire les pages à l'intérieur. Ça s'appelle des cahiers aussi à l'époque. Ce que j'avais envie de dire pour terminer sur ce fameux codex, parce que c'est intéressant, selon les époques, il va falloir entre, selon l'épaisseur de la Bible, de 150 à 500 pots de bête pour une Bible à l'époque.
Il fallait un troupeau, en fait.
C'est ça, exactement. Oui. Ça montre l'importance. Alors attention, le vélin, c'est de la peau de veau mort-née. C'est la peau la plus chère. Mais on travaille sur des peaux de chèvre, sur des peaux de veau, sur... On travaille sur d'autres peaux aussi à l'époque.
On prépare cette peau. Je suppose qu'il y avait des corps de métier qui étaient spécialisés à la préparation de ces vélins.
Complètement. C'est le parcheminier. Il en existe maintenant encore deux ou trois en France, hein, pas plus. Et donc, bah, c'est ceux qui aussi préparent les peaux pour les instruments de musique ou pour l'enluminure, hein, voilà, pour des choses très particulières. Et donc, eh bien, on se fournit chez le parcheminier. Effectivement, métier très développé au Moyen-Âge aussi, d'accord, comme l'enluminure.
Et ensuite, vous appliquez donc votre dessin, mais avant ça, il y a toute une réflexion sur la mise en page, aussi tous les codes du placement et des illustrations et du texte, selon les époques.
Selon les époques, l'enluminure est très codifiée. Alors, ben, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'enluminure va pouvoir utiliser toutes ces techniques de tous les styles. Il peut tout mélanger s'il en a envie, hein, pour faire quelque chose de beaucoup plus contemporain. Mais l'idée, c'est d'utiliser effectivement toute cette beauté qu'on nous a laissée, parce qu'on nous a vraiment laissé beaucoup de beauté. À l'époque, hein, ben, les gens, ils étaient inspirés, ils étaient complètement reliés à la beauté, à la nature. Et du coup, on a des merveilles, on a des merveilles.
Parlez-nous des techniques d'application des couleurs de ce velin qui fait environ la taille d'une page A4, un peu plus petit.
Quand on travaille sur parchemin, on commence toujours par poser la feuille d'or en premier. Hein, ça, c'est une règle. Il y a des choses comme ça qu'on apprend et puis qui sont retransmises depuis des siècles. Donc, on commence toujours par poser l'or en premier. Et ensuite, on va effectivement poser la couleur. Donc la couleur, eh bien moi je travaille avec des pigments que je fabrique moi-même, avec une recette aussi, des recettes médiévales pour faire mes liants en fait, hein, pour faire ma peinture, hein, puisque à l'époque, encore une fois, les moines utilisaient ce qu'ils avaient dans leur cuisine. Et savoir que les monastères, ils étaient complètement autonomes, hein, et ils étaient en autogestion complète, ils faisaient leur gnôle, ils avaient leurs arbres fruitiers, ils avaient leur potager, ils faisaient tout quoi, leur tisane et tout. Et ils faisaient aussi bien sûr leurs pigments eux-mêmes, avec ce qu'ils avaient dans la cuisine. Je travaille qu'avec des choses naturelles.
Donc là, je vois de jolies feuilles vertes. En fait, c'est une image de violette, n'est-ce pas ? Ce sont des violettes avec des jolies feuilles aussi, de la violette à la base. Et puis cet insecte qui est une libellule, hein, c'est ça ? Comment est-ce que vous avez fabriqué en gros cette couleur verte ?
Eh ben, je travaille avec plusieurs couleurs, hein, parce que là, on voit qu'il y a on est au 15e siècle, hein, c'est style 15e. Donc là aussi, au niveau des pigments, hein, il faut aussi comprendre qu'il y a toute une évolution. C'est comme pour la peinture qu'on va retrouver, grâce aux manuscrits justement anciens, on va retrouver toute cette évolution de la peinture, l'évolution des pigments aussi. On commence au 5e siècle, on a 5 pigments sur la palette, hein, avec des couleurs très primaires.
Ah oui, c'était limité au départ.
Voilà. Alors... Quand on arrive à la fin du 15e, on a plus de 50 pigments sur la palette. Il y a eu beaucoup d'évolutions au fil des siècles, beaucoup d'inspirations venues aussi de toute l'Europe, voire de plus loin, comme par exemple le lapis lazuli, hein, qui est très connu en Égypte et qui arrive, nous, dans nos manuscrits, à partir seulement du roman du Xe siècle.
Et qui nous fait un très beau bleu, n'est-ce pas ?
Qui nous fait un très beau bleu, effectivement.
Et alors, ensuite, donc, on pose les autres couleurs l'une après l'autre, et je vois qu'il y a énormément de petits détails qui sont donc redessinés sur la couleur du fond des feuilles et des fleurs.
Techniquement parlant, on commence toujours par ce qu'il y a le plus dans le fond et on terminera par ce qu'il y a le plus devant. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'opérer pour poser ces couleurs.
D'accord, c'est en général des couleurs un peu plus claires en fait.
Pas forcément. Hein, on travaille les ombres et les lumières, surtout quand on est au 15e siècle. Hein, on est vraiment presque dans la vraie peinture. Hein, puisqu'on travaille les dégradés, ça n'existait pas du tout au 5e siècle ni au 7e. Hein, voilà.
Donc là, on est en train de parler vraiment d'illustration, de peinture, qui illustre donc les propos. Il y a aussi tout ce volet de calligraphie, donc d'écriture des lettres.
Ben oui, puisque là, il y a quand même, ben, justement, il y a tout cet enseignement. Et donc, effectivement, l'écriture va avoir une place importante et surtout... Bah, les moines, hein, ils vont se relayer au monastère. On appelait ça le lieu au monastère, c'était le scriptorium, qui était d'ailleurs le seul endroit chauffé. du monastère. Heureusement pour eux, les petits moines qui écrivaient toute la journée avec leurs plumes et leur encre. Et donc, effectivement, bah, l'écriture, elle va évoluer aussi au fil des siècles. Et on retrouve au moins, en tout cas dans les premiers siècles, une écriture par période, par style. Quand on arrive au 15e, on parle même d'un gothique international sur la fin du 15e. On a des écritures différentes selon que c'est des manuscrits italiens, espagnols, français, allemands, etc. Une variété d'écriture un peu plus importante. Voilà.
Et alors, vous avez terminé votre formation il y a 1 ou 2 ans, si je me souviens bien, et vous avez dû faire, donc il y a 3 ans exactement, un vrai chef-d'œuvre que vous nous avez montré. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel a été un peu le cheminement de ce chef-d'œuvre au-delà des études même de calligraphie, des études techniques, je dirais?
Intéressant comme question. Moi, ce qui m'a le plus passionné, c'est qu'un véritable chemin avec soi-même, intime, parce que le chef-d'œuvre, d'abord, c'est qu'une fois dans sa vie qu'on a la chance de faire un chef-d'œuvre comme ça, qui nous prend une année entière, enfin en tout cas 2 ans, puisqu'il faut, si on n'a pas fait la première année, on ne pourra pas faire la deuxième. Il faut d'abord traverser les 1000 ans d'histoire, pouvoir être capable de traverser tous les styles aussi, et de tous les montrer et les intégrer. Et donc, effectivement, c'est aussi une écriture différente à chaque fois, pour chaque style. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, on va être en permanence, c'est comme un miroir. C'est-à-dire qu'on est en permanence face à soi, puisque tout est créé, les dessins sont créés, les textes sont créés, on crée tout dans ce chef-d'œuvre. Et donc, on est en permanence, on va chercher au fond de soi pour laisser sortir les choses. Il y a des fois, c'est très émouvant. Déjà dans les dessins, on n'a pas encore travaillé les couleurs. Quand on finit de son dessin et qu'on a terminé de faire sa création de pleine page, on commence à se rendre compte, parce que ça peut durer longtemps. Moi, ça dure encore. D'ailleurs, j'ai encore des choses qui m'arrivent dans le manuscrit quand je l'ouvre, que je n'avais pas vu avant et que je découvre. Donc, c'est surtout ce miroir, en fait. On est face à soi-même. En fait, c'est soi.
Mais voilà, on sait pas qu'on le reflète dans son...
Et donc ça, c'est très, très émouvant.
Dans son œuvre, oui. Et donc, c'est en même temps un métier qui est très, très large, parce que vous avez été conceptrice, poète, écrivaine, illustratrice, calligraphe pour pouvoir écrire les textes, et ensuite tout ce travail de peinture et de mise en couleur.
Tout à fait. Et du coup, ça offre une possibilité assez importante et intéressante, une large possibilité. Par exemple, l'an dernier, j'ai fait une page de couverture pour un livre. Donc, je peux faire de l'illustration, je peux travailler en petit, mais je peux travailler en grand.
Donc, il y a des applications qui sont tout à fait contemporaines.
Et puis, bien sûr, je peux faire des reproductions de belles pages de manuscrits, de l'iconographie. Enfin, les gens qui ont aimé une page particulière ou une iconographie particulière.
Et qu'est-ce qui vous a emmené vers ce chemin de l'enluminure ?
La beauté.
La beauté, mais énormément de travail en même temps, parce que c'est une vraie discipline.
C'est une vraie discipline. Bon, moi, j'ai fait 45 ans de montagne. On va dire que ça a été mon école de vie, c'est la nature. Et donc, je me suis nourrie de beauté, en fait. Pour moi, c'est essentiel. On ne peut pas vivre sans beauté. Et puis, à un moment donné, c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais des grands virages dans ma vie, j'ai d'abord peint un peu sur bois, fleurs de montagne, tout ça. Et puis, le jour où j'ai rencontré l'enluminure, je me suis reconnue dedans. Donc, c'était plus fort que moi. Et il fallait que j'aille faire ça, quoi.
Et ce travail est de toute beauté. En effet, on est à Saint-Trinite, dans le parc naturel du Mont Ventoux. Il y a énormément de talents dans ce parc et je vous invite à venir voir aussi l'exposition de Brigitte qui va avoir lieu dans la petite église romane de Saint-Trinite. Vous pouvez nous rappeler les dates ?
Oui, donc ça sera le dimanche 27 juin de 10h à 18h en non-stop, en porte ouverte, où je présenterai donc mes travaux en fait.
Donc on vous invite tous à venir voir ce travail exceptionnel.
Vous venez d'écouter Les Pieds dans le Parc avec Anne, un reportage à la rencontre des acteurs qui font vivre le territoire du Mont Ventoux.